Bonjour à tous. Je suis désolé, Jean, je te prends un peu ton travail, puisque je vais parler sur l'Épître aux Éphésiens, dont tu as commencé à nous parler. Mais je crois que tu n'en es qu'au chapitre 2, donc il va se passer un petit peu de temps avant que on puisse t'écouter de nouveau sur la suite. Donc je vous invite à lire dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, du verset 14 au verset 21. Évidemment, c'est Paul qui parle, enfin, c'est Paul qui écrit, et qui écrit ceci. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Donc c'est une prière de Paul, une prière qu'il a fait à genoux. Et qu'est-ce qu'il demande dans cette prière? Il demande à Dieu de fortifier les chrétiens de Éphèse. Donc je vous propose de prendre cette prière de Paul pour les chrétiens d'Éphèse, de la prendre pour nous. Et de penser que, au-delà des siècles, dans cette épître qui nous a été transmise, que Paul demande à ce que nous soyons fortifiés. Et il demande à ce que nous soyons fortifiés à la mesure des glorieuses richesses de Dieu. Vous pensez s'il est riche. Et d'être fortifié d'une façon puissante, d'être fortifié par l'Esprit de Dieu et d'être fortifié dans notre être intérieur. C'est-à-dire pas des biceps, pas de la force musculaire, mais pour encourager ce qui fait notre être intérieur, notre volonté, notre force de caractère. Mais finalement, comment cela peut-il se faire? Comment être fortifié? Quel est le mode d'emploi? Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Paul demande que Christ habite dans notre cœur par la foi. Il avait déjà un petit peu effleuré ce sujet au verset précédent quand il avait dit « par le Saint-Esprit ». Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est aussi la présence de Christ en nous. C'est pas pour rien que Pierre, dans sa première épître, appelle le Saint-Esprit, il l'appelle l'Esprit de Christ. Donc, que le Christ habite dans notre cœur par la foi. C'est par la foi que nous pouvons garder Jésus, le Messie, dans notre cœur. Alors, arrivé à ce point-là, on peut se dire, mais c'est quoi la foi? Je vais vous lire une définition que j'ai trouvée dans le nouveau dictionnaire biblique, Il est nouveau depuis assez longtemps, hein, parce qu'il était déjà nouveau quand j'étais petit garçon. Il était dans la bibliothèque de mes parents. Oui, il s'appelle toujours comme ça. La définition, donc, qui est dans le nouveau dictionnaire biblique, j'ai trouvé qu'elle était bien, donc je l'ai raccourcie, mais je vous la lis comme cela. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Loin d'être une nébuleuse illusion de gens qui n'ont plus les pieds sur terre, la foi est une tranquille confiance en un Dieu réel, tout-puissant et proche, bien qu'invisible. Elle est une merveilleuse assurance en son amour, en son salut, en sa parole. Elle est faite aussi de craintes respectueuses à l'égard de ses jugements et d'obéissance envers sa volonté. On confond souvent croyance et foi. On utilise le même verbe, croire, pour exprimer l'une ou l'autre. Mais il y a une grande différence entre la croyance, qui est d'une nature uniquement intellectuelle, et la foi, qui est de nature spirituelle. La croyance, c'est l'adhésion de la pensée aux faits historiques rapportés dans la Bible. Elle n'implique pas à elle toute seule la vie spirituelle, ni même le salut. L'apôtre Jacques a une formule très, très percutante pour désigner ce que c'est que la croyance. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu as raison, les démons le croient aussi. Et ils tremblent. La foi, c'est donc plus que la croyance. C'est un don de Dieu. Elle est l'œuvre du Saint-Esprit opérant à quiconque est né d'en haut. C'est ce que Jésus a expliqué à Nicodème. Elle est la confiance totale, la ferme assurance dans les promesses du Seigneur. Elle implique évidemment la croyance. Pour croire, il faut comprendre, il faut croire les faits, mais elle va au-delà. Elle est une révélation. Elle dépasse infiniment la croyance. Alors quand le Nouveau Testament parle de la foi, il parle en fait de deux choses différentes. La foi qui croit et la foi qui est crue. La foi qui croit, c'est le fait de croire. Il est bien évident que si Jésus doit venir habiter dans notre cœur, il faut que nous croyions en lui, que nous ayons confiance en lui. Et la foi qui est crue, c'est-à-dire le contenu de la foi, ce que l'on croit. On parle de la foi chrétienne. Hein ? Jude 3 nous dit, mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant, afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à tous les saints. Voilà. Donc, là, il s'agit du contenu, ce en quoi on croit. Et je crois que les deux sont nécessaires pour que Jésus vienne habiter en nous. Il faut savoir donner sa confiance, mais il faut savoir aussi en qui nous donnons notre confiance. Quelles sont ses qualités ? Et si le Christ vient habiter dans notre cœur, alors c'est l'amour, avec un grand A, qui vient habiter dans notre cœur. Et toute l'architecture de ce passage nous fait comprendre que si nous devons être fortifiés, nous ne pouvons l'être que par l'amour de Jésus, par l'amour du Christ. C'est ce que nous dit le verset 17 et 18, « Enracinés et solidement fondés dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. » Si le Christ habite dans notre cœur, alors nous serons enracinés est solidement fondée dans l'amour. La foi, ce n'est pas simplement une connaissance, on l'a vu. Elle doit engendrer en nous de l'amour, et cet amour doit être inspiré à la source même de ce qu'est l'amour. Croire ne suffit pas. Paul, dans la première épître aux Corinthiens, a tout un chapitre qui est pour parler de l'amour. Et dans ce chapitre, il nous dit « Même si j'avais la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. » Alors, nous, l'amour, un peu, beaucoup, passionnément, parfois il y a des hauts et des bas. Nous sommes conscients de la petitesse de notre amour par rapport à celui de Christ, et donc de la nécessité que notre amour à nous grandisse. Et comment est-ce qu'il peut grandir? En nous inspirant de l'amour de Jésus-Christ. Alors, Paul parle ici un langage curieux. Est-ce que, pour la personne que vous aimez, vous avez déjà essayé de mesurer la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de son amour? Géométriquement, c'est un peu compliqué. On peut dire, pour parler d'une façon moderne, que c'est de l'amour en quatre dimensions. Alors, on peut essayer d'imaginer ce que Paul a voulu faire, et je pense que les lecteurs de la Bible, au fil des siècles, ont un peu imaginé, je vous propose ce que moi j'ai imaginé, que la largeur de l'amour de Christ, c'est la largeur d'un amour qui concerne tous les hommes. C'est ce qu'on va... C'est le contenu de la prière de louange que l'agneau de Dieu va recevoir dans l'éternité, qu'on trouve en Apocalypse 5. « Tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang répandu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. » La largeur d'un amour qui concerne tous les hommes. La longueur d'un amour qui se prolonge de l'éternité passée à l'éternité future, qui ne varie pas. Éphésiens chapitre 1, verset 4 nous dit que en Christ nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Et Dieu avait dit à Jérémie, Jérémie 31, « Je t'aime d'un amour éternel. » La longueur d'un amour qui part de l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Que dire de la hauteur d'un amour qui a poussé le Fils éternel à se dépouiller pour devenir un simple homme, un bébé même? Et la profondeur d'un amour qui a poussé le Fils éternel de Dieu jusque dans la mort, dans le tombeau. Ces deux aspects nous sont montrés dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2. On connaît bien ce passage, on pourrait presque le dire par cœur. « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, qu'il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, la hauteur. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. » La mort sur la croix, la profondeur. Reprenons la prière de Paul. Comment être fortifié dans notre être intérieur en invitant Christ à régner dans notre cœur par la foi et en enracinant notre capacité à aimer? Et sur quoi est-ce qu'on peut fonder nos racines? Sur la connaissance de l'amour de Christ pour tous les humains. et comment approfondir cette connaissance en essayant d'en comprendre tous les aspects de cet amour. Alors on rentre dans un cycle. Je l'ai appelé le cycle amour-force. Si Christ habite en nous, si son esprit est puisant en nous, il nous donne le carburant nécessaire pour scruter l'amour de Christ, pour le connaître, le comprendre de mieux en mieux, ce qui fait écho dans notre propre cœur et approfondit notre propre capacité à aimer. Et tout cela aboutit à nous rendre plus forts. Quand nous sommes dans le doute sur notre propre valeur, quand nous nous sentons insignifiants, la seule chose qui puisse nous fortifier sur cette terre, c'est l'amour d'une autre personne. Eh bien, sur le plan spirituel, c'est l'amour immense de Jésus qui nous prouve notre valeur, notre propre valeur, et qui nous fortifie dans le doute, qui nous permet de nous reconstruire. Si donc nous voulons être forts, même au sein des difficultés, alors on peut tenir un langage économique. Si vous voulez être puissant, investissez. Si nous voulons être puissants, même au sein des difficultés, investissons dans la recherche. La recherche de la compréhension de l'amour de Christ, la recherche du développement de notre propre capacité à aimer. La suite du texte nous dit « Ainsi, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. » Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. On voit que Paul n'a pas peur, quand il écrit, de manier un peu des concepts contradictoires. Vous serez à même de connaître ce qui n'est pas connaissable. Qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. On voit que il nous montre un point d'horizon à scruter, il ne nous dit pas vous allez y arriver, mais vous pouvez faire des efforts dans ce sens-là. Cette connaissance de l'amour de Jésus, cette connaissance connue, ressentie en nous-mêmes, elle dépasse toute connaissance, dit Paul. Le plus savant des hommes ne connaît rien tant qu'il ne connaît pas, tant qu'il n'essaie pas de comprendre, tant qu'il ne ressent pas au plus profond de lui l'amour de Jésus pour l'humanité. Et ainsi, cette recherche de compréhension et d'approfondissement va permettre que cette habitation de Christ en nous prenne de plus en plus de place. Jusqu'à, et là je trouve que Paul va fort, jusqu'à être rempli de toute la plénitude de Dieu. Stade impossible à atteindre, puisque nous ne sommes pas Dieu. Mais un but à viser. On peut appeler ça d'un mot plus simple. La sainteté. La recherche de la sainteté, c'est-à-dire la sanctification. C'est ce quoi nous devons tendre pour être plus forts dans notre être intérieur. Paul nous dit dans cette prière, si tu veux être fort, accepte Jésus dans ton cœur et donne-lui toute la place. Et apprends à le faire en regardant comment lui, il aime. Et apprends ainsi à aimer comme lui. Impossible ? Oui, si nous comptons sur nos propres forces. Et Paul déjà nous dit que nous ne sommes pas tout seuls. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. C'est difficile d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. C'est même pas difficile, c'est impossible. Mais Dieu peut faire en nous infiniment plus que ce que nous demandons et pensons. C'est lui qui agit, en fait. À nous de désirer cette progression, de le lui demander et d'utiliser les outils qu'il nous a donnés et que nous venons de voir. Comment fortifier la présence de Dieu en nous en scrutant l'amour de Jésus. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen.